Bonjour à tous, c'est une manière de rentrer dans le cercle. J'ai pas l'impression d'être à côté, parce que c'est toujours le risque quand on prépare une intervention et qu'on intervient comme ça, c'est d'avoir réfléchi un petit peu en dehors de ce que d'autres ont réfléchi, surtout que vous êtes là depuis hier. Et j'ai l'impression que ça se connecte assez bien. Mais c'est mon impression, donc j'espère que ça tiendra jusqu'au bout. J'ai intitulé ça Perception, action et politique. J'aurais pu dire perception, mouvement et politique ou attention, action et politique, voire même cosmopolitique, parce que je vais essayer d'arriver jusque-là. Je dirais en préambule. Ce à quoi je suis très attaché, c'est avec d'autres auteurs, c'est pas une originalité de ma part, c'est d'associer action et perception, ou perception et action. Et je dirais, ça peut être dans l'un sens ou dans l'autre, parce que tellement c'est lié que on peut rien glisser entre ça. Et puis, c'est action-perception pour un corps, puisqu'on part d'un corps toujours. Mais c'est un corps qui est inséparable des autres corps, des non-humains et de tout ce qui est là, quoi. C'est ce qu'on respire. Moi, je me souviens, vous nous disiez qu'on retrouvait si j'ai bien compris, des morceaux de plastique dans nos chromosomes. On est inséparable de tout le reste et on n'a pas d'existence propre. Et l'hypothèse que je fais, le point de départ, c'est que tout se construit au cours de cette attention et de cette action faite à plusieurs et faite avec tout ce qui nous entoure et pour essayer de faire en quelque sorte une immense, mais quand je dis immense, j'ai tort, alors je dis local, mais quand je dis local, j'ai tort, parce que tout est imbriqué. Mais il y a une communauté de pratiques, quoi, et avec des êtres inséparables, inséparables des choses et des choses inséparables. Et c'est assez difficile à penser, et c'est peut-être la raison pour laquelle on met tant de temps à réfléchir à la modernité, ou notre époque, pas de modernité, parce que, en fait, le tournant. Sur lequel on réfléchit, commence à émerger au milieu du 19e siècle. Donc c'est quelque chose contre lequel, je dirais, on a beaucoup résisté. Je me mets dedans parce que j'ai un certain âge et avant de faire ça, je faisais d'autres choses qui me paraissent aujourd'hui assez stupides. Pour commencer, Alexandre Turalès, c'est un anthropologue, laboratoire d'anthropologie sociale à Paris, qui a été envoyé par Philippe d'Escola chez les Candochis pour travailler sur les questions de langue. Et en restant avec eux, il s'est intéressé alors à la question des couleurs. Parce que les Candochis ne parlent pas de couleurs. C'était Eleanor Roche qui, chez les Dani, où les Dani ne parlent pas de couleur non plus, ils ont seulement le terme clair ou sombre, et elle s'était posé la question de savoir s'ils voyaient les couleurs ou s'ils ne les voyaient pas. Et ils les voient très bien, sauf qu'ils n'en parlent pas, et ils nomment pas. Et c'est ce qui se passe chez les Candochis, c'est qu'ils nomment pas les couleurs, et ils vont faire comme on fait avec les goûts et les odeurs. Quand on goûte un vin, on décrit jamais ou on parle jamais d'un goût en particulier, mais on dit c'est pamplemousse, c'est banane, c'est lavande, ou on renvoie toujours à autre chose. Et les Candochis renvoient toujours à autre chose. C'est-à-dire que les couleurs, le bleu d'un oiseau, ça peut être lié au geste qu'on peut faire pour l'attraper. Ou ça peut être lié à la couleur de mon stylo parce que je vais le dessiner et c'est toujours lié à quelque chose qui est lié à un savoir-faire, qui est lié à un geste et une manière de se préoccuper de cet oiseau. Et les Candochis disent, on voit avec le cœur, Et même en rêve, on voit avec le cœur. Et c'est ce qui amène sur Alès à dire les Kandoshi, en fait, n'ont pas besoin de catégorie. Ils vont associer perception, cognition, action dans un rapport au monde, et les couleurs, elles n'ont de sens que dans ce rapport au monde, que dans cette manière de nouer des relations. Et il en arrive à un constat que vous évoquiez, qui est de plus en plus partagé, c'est le désintérêt pour la notion de représentation. On n'est plus dans un monde qui existe, qu'il va falloir penser sur dans un autre monde, le monde des humains contre le monde de la nature. On n'est pas dans un monde dont on va construire des images ou des imaginaires. Le monde, il est là, on est en prise avec, et on le fait autant qu'il nous fait. Et le troisième point, il nous dit, en fait, l'œil est dans le monde, et le monde n'est pas vu depuis un monde extérieur. Bon, quand on lit ça, la première chose à laquelle on pense, c'est l'art de la perspective, c'est cet œil qui se trouve en dehors du cadre et qui montre bien que l'être humain va projeter une connaissance sur le monde, et on retrouve ça chez Descartes avec Nanceron et la perspective dépravée, ou on retrouve ça chez Leibniz, on retrouve ça chez Kant, on retrouve ça chez tous, l'idée que préexistent des manières de voir qu'on va projeter sur le monde. Et puis il y a la forme inverse, comme j'ai l'esprit mal tourné, que j'entends parfois, c'est-à-dire que notre environnement nous envoie des signes et qu'on réagit à ces signes, alors que si on est couplé avec l'environnement, il ne nous envoie rien, on ne lui envoie rien, mais on construit ensemble quelque chose, on constitue. Donc on est en train de, moi je dirais, de bouleverser la perspective, et je viens de finir un texte sur comment essayer aujourd'hui d'échapper à la perspective qui est omniprésente et qui, le mot était prononcé, laisse penser à une certaine forme de dictature, non seulement du regard mais aussi de la pensée. Un des auteurs importants, c'est Ernst Mach. Moi, quand je l'ai découvert, ça, il a été publié en français, il a été traduit chez Jacqueline Chambon dans les années 80. C'est un personnage assez incroyable qui, dans les années 1880, est philosophe, physicien, mathématicien, discute avec Boltzmann, Pauli, Freud, Ferenczi, et a une influence autant sur la naissance de la psychanalyse que sur la naissance de la mécanique quantique. Et Ernst Mach lutte contre la séparation entre la matière et la psychologie. Et il dit la matière et la psychologie relèvent du même monde, il n'y a pas de séparation. C'est, comme il le dit, il n'y a pas de fossé entre le psychique et le physique. Et le monde sensoriel appartient à la fois au monde physique et au monde psychique. Et l'observation, écrivait-il, nous assure, parce qu'elle est partagée, que nous avons un monde physique commun. Bon, ça c'était pour... Donc on n'a plus deux mondes, mais on en a qu'un, je passe vite. Alors, ça nous conduit à trois points, moi, qui me semblent importants. C'est le premier, c'est arriver à penser, parce que c'est pas si simple que ça, arriver à penser la relation individu en environnement, ce à quoi se sont essayés, et de manière vraiment très intéressante, Merleau-Ponty, Varela, Lewontin, Gibson, Ingold, Berg, chaque fois avec un peu des limites, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. J'ai repris une phrase de Richard Lewontin qui s'intéresse à la génétique, à la biologie, et il montre que les organismes contribuent à la constitution de l'environnement comme ils sont eux-mêmes constitués par l'environnement. Il y a là quelque chose qui relève de, je ne sais pas si j'ose prononcer le mot, mais d'une physique de autant de la matière que du vivant. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'imbrique là. Je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose, moi, auquel je suis attaché. C'est que considérer l'être humain comme un instrument de mesure, la perception, on a une impulsion toutes les, on a 8 impulsions toutes les secondes, pour l'audition c'est pareil, pour l'odorat c'est pareil, c'est-à-dire que on construit un monde particulier parce qu'on est un instrument de mesure particulier. Filmé à 1 million d'images secondes, on n'a pas la même image que de filmer à 24 images secondes. C'est cet ordre-là. Et puis, ce que nous dit Lewontin aussi, c'est qu'il y a un échange incessant entre les processus internes et les processus externes. Varela nous parlait de couplage structurel. On reste un peu dans le même ordre d'idées. Deuxième point, c'est penser la motricité associée à la sensorialité ou à la sensation. La sensation qui devient, ou l'essence qui devient, ou la sensorialité qui devient un instrument de l'action, mais qui est lui-même piloté par l'action. On a là Poincaré, Jeannereau, Berthoz dans les neurosciences. Jeannereau qui montre comment lorsqu'on mesure les mouvements de la pupille, une fixation pupillaire, en fait, ne nous dit pas l'état du monde, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas de l'information qu'on va analyser, mais cette fixation pupillaire est le résultat d'un mouvement, et on regarde la bonne effectuation de ce mouvement, et on continue, et on associe le mouvement à ces saisies-là. Poincaré nous disait que pour s'asseoir dans un fauteuil, en fait, il faut le penser en termes de connexion synaptique et de contraction musculaire, et non pas de nombre de pas ou que sais-je encore qui nous sépare de l'objet. Et Alain Berthoz, qui est venu plusieurs fois dans ce laboratoire, lui parle de perception pour bien montrer que tout ça est associé. Et puis, le troisième point, c'est penser la relation en termes de phénomènes de champ. Et là, je renvoie à Lips, Simondon, il y a pas mal d'autres, il y a Kurt Lewin, on pourrait rajouter, ou d'autres, qui permettent de mettre en relation, d'associer cognition, émotion, mémoire. Et puis, surtout, quelque chose auquel je suis attaché, c'est les synchronisations de systèmes oscillants. Ça, c'est des questions qui associent neurosciences physiques et qui considèrent l'être humain, par exemple, ou un objet comme des systèmes oscillants ou un animal, et qui vont essayer de comprendre comment les choses se mettent en place pour qu'il y ait une perception et le développement d'une action entre guillemets commune. C'est sortir du seul point de vue de l'être humain. Et c'est se dire que peut-être là où on peut comprendre ce lien entre les différents éléments, c'est des questions d'oscillation, des questions de rythme, des questions de synchronisation. Et moi, qui me font penser à la chorégraphie, c'est-à-dire comment on danse ensemble. Dans un monde qui se façonne au fur et à mesure. Il y a peu de temps, Jean-Jacques Wienenberger était là et s'est intéressé aussi au rythme. Et j'ai repris ces 3 lignes de lui parce que c'est quelque chose qui me semble important, encore une fois, c'est que on n'est pas animé par des rythmes, mais on est co-auteur, co-acteur de ces rythmes. C'est-à-dire qu'on les. on les renvoie, on les renforce. Et là, il y a pas longtemps, j'ai fait un travail à l'Opéra de Lyon sur des duos qui est organisé par l'Opéra entre des artisans et des musiciens. Et on voyait bien comment la coiffeuse, l'harpiste ou le boucher, le contrebassiste arrivaient à se synchroniser, à synchroniser leurs gestes, synchroniser leurs mouvements et construisaient une sorte de musicalité commune. Et ce qui était vraiment très intéressant, et ça dit cette force des synchronisations, c'est que le musicien, par le jeu sur le geste de l'artisan, orchestre en quelque sorte les sonorités de l'artisan. Et l'artisan entend ces sonorités, mais il les entend dans une sorte d'orchestration de musicalité qui fait qu'il a un retour sur ce qu'il est en train de faire qui est heureux. Et on voyait ces artisans qui étaient joviales parce que, et disaient le plaisir qu'ils avaient eu à travailler avec cette musique qui était faite à partir de leurs gestes. Et puis Gérard Olivier qui développe une théorie de la gestualité qui est importante et il montre comment en fait on ne représente pas mais on répète et puis à force de répéter on crée des sortes de couloirs synaptiques qui renforcent les savoir-faire jusqu'à travailler contre la plasticité neuronale et renforcer à tel point des choses qu'on ne sait plus faire le reste. Et puis, encore une fois, que le lien entre l'extérieur et l'intérieur est tout à fait fort et qu'il n'y a pas de séparation. Donc, mémoire des gestes et perception, la notion de care aussi, esquisse des modalités du politique, pardon, qui concernent toutes les relations et continuellement. Oui, bon, voilà. Alors, on peut dire, et je vais passer vite aussi là-dessus, c'est-à-dire que les organismes ne s'adaptent pas à leur environnement, ils le constituent autant qu'ils s'en constituent. Là, je pense que ça nous amène, oui, à. Alors là, je suis prudent parce que ce n'est pas mon domaine, mais je serais tenté de dire qu'on devrait abandonner cette idée d'ontologie. Parce que si j'ai bien compris cette notion, on pense en termes d'être. Et si on pense en termes d'être, incorporation, ce lien fondamental avec le reste du monde, il passe par des médiations. Alors que notre vie de chaque instant, elle n'est que processus, je dirais. Elle se fait continuellement avec tout ce qui est là, avec tout notre passé, autant que nos projections. Et moi, je serais assez d'avis de renvoyer l'ontologie à un discours sur la création, peut-être sur les origines du monde, parce qu'il faut bien admettre qu'on est là, ou en tout cas qu'on imagine être là, ou qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc je veux bien qu'on ait un discours là-dessus, mais il me semble justement que tous nos questionnements et notre interrogation, elles portent non pas sur un monde qui serait métaphysique, mais sur un monde physique. Et qui serait un monde cosmologique, c'est-à-dire un monde qui serait fait de toutes ces tensions quasiment à l'infini. Donc, penser à la dynamique et puis penser comme le pensait James selon le flux immédiat de la vie. Et il me semble que ce que James appelait empirisme radical était une manière de prendre ses distances avec l'ontologie, parce qu'il affirmait une continuité de l'expérience qui n'est jamais réductible à une totalité, ou voire même à un être ou quelque chose qui serait séparable du reste. Ce qu'on apprend de notre monde contemporain et de ses réflexions, c'est que la relation n'est plus spatiale. On n'est plus sur une map monde, en tout cas pour l'anthropologie, c'est flagrant, où on pouvait cartographier les populations, les Nuer étaient par là, les Bororo là, les Inuits là, etc. Puis chacun avait sa culture, son territoire, son histoire, etc. Là, on est dans un monde qui devient beaucoup plus complexe. Je reprends ce terme de moléculaire sous votre critique ou protection. Pense à Jean-Claude Martin, parce que ça donne lieu à des compositions qui sont toujours variables. Et ça produit une diversité qui fait que la dynamique l'emporte toujours sur le règne de la substance. Donc, privilégier ces notions de cosmologie. Alors, ça peut renvoyer, et là, on pourrait avoir un sujet de discussion aux approches défendues par Vescola, surtout Villeros de Castro, Bruno Latour, voire même Tim Ingold ou Nelson Goodman en art, ou encore Whitehead, qui privilégie ce qu'on peut appeler un multiperspectivisme. C'est-à-dire qu'on avait un monde, hein, je vous l'ai montré, avec un œil en dehors du monde, et là on aurait une multiplication de mondes, chacun aurait son point de vue, et le monde serait construit sur le modèle d'une assemblée, en quelque sorte, où chacun aurait le droit à la parole, aurait le droit au respect de sa posture et de son point de vue. On s'éloigne de la pensée de Thomas d'Aquin, qui a encore cours, je pense. Thomas d'Aquin, ça a été quelqu'un qui a introduit Aristote en Europe et qui a marqué profondément nos systèmes de pensée. Et ça permet d'évacuer cette notion de monde unique et de monde qui doit être amené à un ordre et à un seul ordre. Mais le multiperspectivisme ne me semble pas être suffisamment solide, parce que au lieu qu'il y ait un univers, on se retrouve devant un multivers, au sens de James, encore une fois, et je pense que on peut, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme moyen de créer des réseaux, de créer de la communication, de rapprocher avec Internet, avec tous ces câbles, avec tous ces satellites, avec tout ça, et avec la mondialisation, on est dans un monde qui est communiquant à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point qui ne soit pas en lien avec le reste. Il suffit d'aller sur Google Earth ou etc. pour être présent à n'importe quel endroit du monde. Alors, ça m'a rappelé Jean-Pierre Luminet, hein, qui était là pour la deuxième station de la saison 1, si je peux dire, et qui posait cette question, moi, qui m'est restée, c'est comment représenter un espace courbe fin et sans bord, c'est-à-dire sans extérieur et multiconnexe. Et l'hypothèse de Jean-Pierre Luminet, c'est qu'on est dans un monde de reflets multiples et qu'en fait il est sans doute beaucoup moins complexe qu'on le perçoit, mais comme il se renvoie à l'infini, ça donne des choses hyper complexes, si on peut ajouter cette notion. Et il s'est attaché à construire des représentations parmi lesquelles les espaces chiffonnés, qui sont des espaces mathématiques, mais qui essayent de rendre compte de cette multiplicité topologique qu'il peut y avoir entre le local et le global, et entre une infinité de localités. C'est ça qui est complexe à penser, c'est que le monde, il se fait continuellement dans tous les endroits, mais pas de manière autonome. Toutes ces constructions locales sont connectées et contribue à produire quelque chose qui est extérieur à toute logique et à tout projet. C'est ça qui est tout à fait incroyable. Et moi, la question que je me pose, et ce sur quoi j'essaye de travailler, c'est comment, à l'échelle des SHS, puisque c'est mon domaine, mais réconcilier avec les autres disciplines, parce que je pense que c'est fini le temps des enracinements disciplinaires. C'est, on est obligé de penser à l'échelle des sciences et des arts pour pouvoir arriver à comprendre ce qui émerge de nos discours. Et pour finir, je reviens à ça, et je dirais ce qu'il faut imaginer là avec cette figure, c'est que le personnage n'est pas figé, que l'environnement n'est pas figé, et qu'ensemble, ils sont en mouvement et ils ont des effets réciproques l'un sur l'autre, sans qu'on puisse maîtriser ce que ça produit comme effet et comme forme locale. Donc on est devant quelque chose d'extrêmement dynamique, de turbulent, de chaotique, et qui se construit continuellement. Et ça nous oblige à remettre en cause notre propre identité d'être humain, parce que moi je me sens plus sujet du tout, parce que j'entends plein de choses, je touche plein de choses, je sens plein de choses, je respire plein de choses, etc., etc. Une crème que je me passe là, je peux la retrouver dans le postillon que j'envoie sur tel brin d'herbe, etc. On est dans des mondes extrêmement complexes. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été aussi chaotique que ce que j'évoque. Merci. Merci.